10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni qui veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon samedi à tous, ravi de vous retrouver. Émission préparée et co-présentée par Yacine Ilmi. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous.
Fondateur de l'association OZEZ.
Oui, effectivement, on accompagne les imams pour apprendre le français et puis les responsables d'associations culturelles de mosquées aussi.
L'imam Abdelali Mamoun est là également, il a son rond de serviette dans l'émission. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe. Moi j'aime bien dans OZEZ, c'est le mot zénitude. Parce que nous les imams, on a besoin de zénitude. Et si OZEZ nous apprend à être zen, c'est déjà quelque chose à bien acquis.
Je vous ai trouvé une coach en zénitude, on est en train de négocier ça, Abdelali Mamoun. D'accord. J'attends que madame Mamoun me signe mon papier.
Ouais. Elle n'est pas prête de signer.
Alors, le père Henri Fautrade est avec nous. Bonjour père Henri. Ouais.
Bonsoir à tous.
Alors, vous dites bonsoir parce que l'émission est enregistrée, puisque le samedi c'est Shabbat. Mais c'est bonjour, près de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes délégué épiscopal aux relations avec les musulmans pour le diocèse du Mans, père Henri.
Absolument, oui. Alors, bonjour à tous.
Merci d'être
donc,
avec
du
nous.
Département de la Sarthe.
C'est ça, c'est bien ça. Exactement.
72. Voilà,
c'est ça. 72.
Chez François Fillon, comme on disait à l'époque. Le rabbin Gabriel Agaï est avec nous. Bonjour, rabbin Gabriel.
Bonjour, shalom aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soient sur vous tous. Et puis, c'est pas enregistré le samedi, mais comme vous allez écouter ça le samedi, donc je dis Shabbat shalom à tous.
Voilà. Et puis le pasteur Jean-Christophe Perrin est là avec nous. Bonjour, pasteur Perrin. Vous êtes responsable de l'église protestante unie et vous officiez à Charenton. Le presbytère est à Charenton.
On a une petite pensée à notre moine quand même, Federico, qui devait être avec nous aujourd'hui. Et malheureusement, il s'est fait arracher son sac à Châtelet. Et du coup, il ne peut pas nous rejoindre.
Aujourd'hui ?
Là, là,
là maintenant ?
Oui, en venant, du coup, son sac avec son ordinateur portable, son appareil photo et une petite caisse du temple qu'il devait remettre à la banque. Donc c'est vrai que c'est une pensée, une grande pensée pour nous.
Bah, c'est dur.
Ouais. Ouais. C'est compliqué, Paris, finalement.
Ouais. Non, mais à Châtelet, c'est compliqué quand le métro se remet à marcher, c'est ça ?
Voilà, exactement. Bien, on va parler du diable. Peut-être que c'est le diable qui s'est manifesté. Le diable, une réalité partagée par les religions. Et c'est la question que nous vous posons ce soir. Quels sont les mots, Yacine, que nous avons appris en préparant cette émission ?
Bah, on a appris plein de mots. Du coup, le premier, c'est les suppôts de Satan. Parce que Satan, c'est celui qu'on appelle le diable. Et donc, il a ses suppôts.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, suppôts ?
J'irais allier...
Un suppôt, oui, c'est un suiveur, un disciple.
Un supporter.
Mais la question qu'on se pose vraiment profonde et sérieuse, c'est est-ce que les suppôts de Satan sont à la glycérine ?
c'est pas des suppositoires.
Mais il paraît que les voix de Satan sont impénétrables. Donc,
non.
Voix de Satan ?
Oui.
Voix du Seigneur.
Non, c'est le rabbin Gabriel. Je tiens à le nommer. Voilà. C'est la question qu'il pose.
Non, mais ça, en fait, moi, la question, c'est plutôt se poser sur le mot Satan. Parce que Satan, à l'origine, ça vient de l'hébreu Satan. Et le verbe liston, Satan, ça veut dire. Accusé. Donc Satan, l'accusateur. Littéralement, c'est l'accusateur. C'est un ange qui accuse. Et c'est ce qui est passé après à travers le latin et le grec dans les langues européennes, Satan en français, et aussi Shaitan en arabe.
En arabe.
En français, on dit le diable, mais est-ce que c'est la même chose ?
Le diable, ça vient du latin qui veut dire diabolos. Diabolos qui veut dire divisé.
C'est le diviseur, voilà. Diabolos, le diviseur. Et Satan, on dirait plus précisément en français, l'adversaire maintenant. L'adversaire.
Donc les suppôts de Satan sont les suiveurs de Satan, les personnes malfaisantes qui adorent le diable, qui adorent Satan.
Ouais, c'est les followers de l'adversaire.
À l'époque, on ne disait pas encore followers, c'était les suppôts.
Les supporters.
Non, ils n'avaient pas de compte Twitter encore, donc on ne peut pas dire followers.
Est-ce qu'on a appris un autre mot, Yacine ?
Alors, quand même, je vais dire un petit mot en arabe, parce que le mot shatana en arabe, ça veut dire s'éloigner de. C'est celui qui éloigne en arabe. Shatana, ça veut dire c'est prendre de la distance dans l'arabe littéraire.
Et c'est lié aussi, il y a le mot Lucifer, qui fait peur aussi.
Ah oui.
Porteur de lumière.
Porteur de lumière. L'ange de lumière.
Un lux ferré, celui qui porte la lumière, mais on verra, c'est précisément celui qui. Qui met le spot de lumière sur lui-même au lieu d'éclairer le monde.
Et qui n'est pas dans la Bible, en fait. En fait, ça, c'est le folklore qui va l'introduire, mais le mot Satan et diable sont dans la Bible, mais pas. Voilà.
D'accord. Donc c'est aussi un mot pour désigner le diable. Et enfin,
on a en arabe le mot shayyata, qui est dérivé du mot shatana. Shayyata, qui veut dire cuire, brûler jusqu'à la... On dit shayyato, tu sais, en arabe, on dit shayyato. C'est brûler jusqu'à...
au charbon.
Voilà, charbonner. Charbonner, mais par-dessus.
Carboniser.
Charboniser. Carboniser, le, ouais. Le dessus, pas l'intérieur.
D'accord.
La croûte.
Griller, quoi.
Griller la croûte, voilà.
Et Belzébuth, ça vient de Baal. Donc le dieu Baal, Belzébuth ou Belphégor, Baal Zébuth, le seigneur des mouches.
Voilà. Donc Baal-Zébuth en hébreu, qui était une des idoles adorées par les peuples cananéens et auxquelles se sont confrontés les Israélites lors de leur sortie d'Égypte et leur rentrée en Terre Sainte.
Oui,
et ça a été souvent le cas en fait des religions, de diaboliser les religions autres que les leurs. Et donc, dans la Bible, Baal, entre autres, mais Astarté aussi, et Dagon, qui est le dieu des Philistins, deviennent comme des démons.
Encore un mot, Yacine.
On avait parlé de diantre.
Mais, ouais, mais c'est du vieux François. C'est du vieux français.
Ça, c'est les mousquetaires, ça, diantre.
Diantre.
C'est des interjections pour ne pas dire diable. Donc, ça commence pareil. Et plutôt que de finir, on dit dia, et d'invoquer le diable, on dit diantre. Comme sacre bleu, ou ouais. Ventre bleu, plutôt que dire sacre dieu et ventre dieu.
Ou scrogneugneux.
Ça évite de jurer, en fait.
Ça voilà. Évite de jurer. Ouais.
C'est une interjection, comme ils appellent ça, une interjection ou un euphémisme.
Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, on n'avait pas le droit même de dire scrogneugneux. Même ça.
Ah, ça a changé, hein.
Oui.
Alors, qui a inventé le diable? Est-ce que c'est Dieu qui a inventé le diable?
Bonne question.
Alors, je demande au père Fautras pour commencer.
Ouais, ce qui est intéressant, nous, notre source, hein, comme pour la tradition juive et protestante et orthodoxe, c'est le livre de la Genèse. Et dans le récit de la création, et puis de cette étape décisive où le choix de vivre libre auprès de Dieu se fait avec une personnalité étrange. Cet animal au sang froid, le serpent. Là, nous avons une présentation d'un animal qui est antérieur à la création, en tout cas à la création de l'homme. Donc, c'est intéressant parce que ça n'implique pas ni l'homme ni Dieu dans la question du mal.
Ouais, alors.
Alors, Rabbin Gabriel.
C'est les Juifs. C'est dans la Torah. Alors, c'est vrai que le premier archétype qui incarne le mal. Dans les personnages bibliques, dans toute la série, c'est le serpent originel qu'on appelle Nahash en hébreu. Nahash va prendre un nom ensuite dans la littérature postérieure, la littérature mystique ou gnostique. Il va prendre le nom de Semael. Semael qui est
Samuel.
Le nom, non pas Samuel. Semael qui est le nom de le petit nom de l'ange de la mort, si vous voulez. Donc l'ange de la mort étant ce qui est contre de la vie, c'est-à-dire le positif, tout ce qui est le bien, c'est ce qui amène la vie, et tout ce qui est le mal, c'est ce qui va raccourcir la vie. Donc c'est pour ça qu'on a associé le mal à la mort, et c'est pour ça qu'on a donné dans la littérature gnostique le nom de Semael au serpent originel.
Alors, pasteur Perrin.
Alors, en fait, il n'est pas vraiment très clair que le serpent soit associé au Satan, parce que c'est plus ça ressemble plus au mythe de babylonien, je veux dire, enfin le mythe de Gilgamesh en fait. Et le serpent donc joue un rôle un peu ambigu, c'est vrai, mais il n'est pas nommé. Et il y a deux fois dans la Bible hébraïque où Satan est nommé par le mot Satan, et l'une d'entre elles assez ambiguë d'ailleurs, parce que c'est dans le livre de Job, et c'est un ange qui en fait se promène librement et va voir Dieu librement dans sa cour céleste pour dire voilà Job, tu lui as tout donné, tu lui as donné des richesses, tu lui as donné la fortune, la santé, les enfants, et il t'adore simplement pour ça. Et donc il met au défi Dieu que si tu lui enlèves tout ça, eh bien, il va cesser de t'adorer. C'est assez curieux parce que Dieu accepte. Il accepte.
Oui, parce que
voilà.
C'est dans la tradition juive, Satan, donc c'est l'accusateur, c'est l'ange accusateur. Voilà. C'est un ange.
Voilà.
C'est pas un être mauvais. C'est un ange qui fait la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu dans le sens d'éprouver l'être humain. Donc, il nous envoie. Les épreuves nous arrivent par l'intermédiaire de Satan, qui est un ange, ici, dans la tradition juive.
Alors, juste pour compléter un petit peu, dans la tradition chrétienne, Jésus donc parle de Satan, parle du diable, les tentations, etc. Et dans l'histoire des religions, on va dire, cette introduction d'un mauvais comment dire, esprit vient probablement de la Perse quand les Juifs étaient à Babylone, parce que la Perse faisait en fait une dualité entre un dieu bon qui crée le monde et un dieu mauvais, donc Mazda, Ahura Mazda, et puis Ahriman qui crée tout le mal, voilà. Et il y a aussi toutes les anges avec des ailes, etc. Ça vient aussi de Perse qui est après allé à Babylone et qui a été reporté. Ça, c'est l'hypothèse de l'histoire des religions.
Imam Abdelali, dans le Coran alors.
Alors dans le Coran, il est dit qu'effectivement, Iblis vient se présenter devant Adam pour le tourmenter, pour l'égarer. Et il va pour cela parjurer, il va mentir à ce naïf qui est Adam, nouveau-né, comme un enfant, qui ne peut pas imaginer qu'on puisse lui mentir, et qui va lui dire « Dieu ne t'a empêché de manger de cet arbre-là que parce qu'il veut t'empêcher d'obtenir la vie éternelle. Hein? »« Hal adulluka ala shajaratil khuldi » Il parle de l'arbre de l'éternité, que grâce à cet arbre, si tu en manges... Donc il lui ment, il l'égare, il le séduit. Et alors, est-ce qu'il est sous la forme d'un serpent ou autre ? Ça, ça n'est pas évoqué dans le Coran. Même l'arbre, est-ce qu'il est de quel fruit ? Est-ce que c'est la pomme ou autre chose ? Là aussi,
dans
le Coran, on parle de shajara.
Père Fautras.
Non, il n'y a jamais de pomme. C'est simplement en latin, on dit le fruit, c'est poma, mais c'est simplement le fruit de l'arbre, c'est-à-dire le fruit que l'on peut consommer, c'est-à-dire la connaissance que l'on peut acquérir puis transmettre.
Oui.
Il n'est pas question de pomme, c'est bien de terminer rapidement avec cette
Alors,
question de pomme.
Pour revenir à cette créature qu'on appelle le diable, dans le Coran, il est évoqué que c'est une créature qui fait partie de la race des djinns. Et qui n'ont, il n'est pas humain et il n'est pas un ange. Ça, c'est dans le Coran. Illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dans le Coran, sourate al-Kahf, la sourate la grotte, Dieu évoque la race même dont fait partie Iblis, qui est le nom à l'origine de
Iblis et Shaitan, c'est pareil.
C'est la même personne.
C'est la même personne.
C'est le même personnage, on va
D'accord.
dire ça comme ça. Mm-hmm. Mais c'est un djinn qui vivait parmi les anges parce qu'il était un adorateur particulièrement assidu et un grand savant de la connaissance de Dieu. Il connaissait Dieu mieux que personne. Donc les anges étaient en admiration devant lui. Et Dieu, au moment de la création d'Adam, a voulu dévoiler la vraie nature de Shaitan, de ce diable, de cette personne-là, de cet individu-là. Et il a demandé aux anges de se prosterner. Et lui a refusé de se prosterner, a désobéi à Dieu. Et il a dit, non, tu l'as créé de terre et moi tu m'as créé de feu, je suis meilleur que lui. Il dira à Shaitan, ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu nous relates de manière évidente le dialogue entre lui et Dieu. Il dit, non, je ne me prosternerai pas devant lui. Tu m'ordonnes de me prosterner devant une créature inférieure à moi, je ne peux pas accepter cela. Et donc il va s'enorgueillir et être chassé. Et Dieu donc va le chasser, donc le maudire. Et pour se venger d'Adam et de ses enfants, il dira à Dieu, je vais tous les égarer, Adam le premier et tous ses enfants qui le suivront.
Père Fautrat, je vous ai entendu dire oui. Pareil.
Oui,
il y a une question qui est posée au Satan. Lui-même, il y a une épreuve qui lui proposait d'accepter ou pas d'être soumis à Dieu. Et de fait, il y a là, une opposition, comme l'a dit très bien Abdel Ali. Mais j'aimerais revenir tout de même sur la question du serpent, parce que...
Alors attendez, vous savez quoi ? On va marquer ce qu'on appelle une pause de publicité. C'est la quête, vous voyez ? C'est un peu comme à la messe, et on revient dans un instant. Et on parle du diable, donc une réalité partagée par les religions. Speak Uni jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Speak Uni revient dans un instant. 10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et nous parlons du diable aujourd'hui, une réalité partagée par les religions avec l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous, Yassine Ilmi, le père Henri Fautrade qui est avec nous au téléphone, le rabbin Gabriel Agaï qui est là et le pasteur Jean-Christophe Perrin. Je sais que père Fautrade, vous vouliez parler avant la publicité du serpent pour qu'on en finisse avec cette idée. Pourquoi ?
Alors, c'est très important de bien comprendre le statut des textes. Il y a une intelligence de situation de l'humanité et on essaye de comprendre qui est en responsabilité du mal qui est occasionné à toutes les générations en permanence chez tous les humains. Et alors, on a une tentative d'explication spirituelle et non pas chronologique ou historique avec une figure emblématique qui est le serpent parce que vous savez, le serpent, il s'immisce partout, il est un peu filant, fuyant. On imagine qu'il est donc plutôt menteur et qu'il cache un peu ses intentions. Alors c'est très intéressant parce que ensuite, quand Dieu questionne Adam en disant « Ben voilà, pourquoi tu as désobéi ?» Il dit « C'est pas moi, c'est la femme. » Et la femme, elle dit « C'est pas moi, c'est le serpent. » Et alors donc, là, on a la figure emblématique du mal qui est représentée bibliquement par le serpent qui s'insinue dans nos conversations, dans nos façons d'être.
Père Henri, si vous avez le haut-parleur, je veux bien que vous l'enleviez pour qu'on, voilà, pour qu'on profite pleinement de ce que vous dites. Alors attendez, parce que Yacine avait une question à poser. Rabbin Gabriel.
Oui, c'était parce que hors antenne, Yacine posait la question, mais avant que l'être humain soit créé, où il était, où Satan. Et alors, moi, je réponds dans l'optique de la Torah, du judaïsme. C'est que le Satan ne vient que dans l'optique de l'humain. C'est-à-dire, il vient pour tenter l'humain. Ben avant que l'humain soit créé, Satan, c'est comme tous les autres anges, il est à côté de Dieu et il est tranquille. Il n'y a pas dans le judaïsme cette idée de dualisme ou de dualité, c'est-à-dire qu'il y aurait un royaume du bien qui est Dieu et il y aurait un royaume du mal avec Satan et le dans l'enfer. Non, il y a Dieu est bon et toutes les créatures sont bonnes. Ça, c'est chose. Et c'est pour ça que nos maîtres spirituels disent. C'est une phrase dans la Gemara. Hu an-nahash, hu as-satan, hu as-yasara, hu malakh amawet. C'est-à-dire, c'est tout cela, le serpent originel, le mauvais penchant de l'être humain, l'ange de la mort, tout ça, en fait, tout ça, ce sont, et le diable, enfin, tout ça, ce sont, en fait, la même chose. C'est-à-dire que le mauvais penchant, il n'y a pas plus Satan que le mauvais penchant de l'homme, c'est-à-dire que l'ego est le Satan par excellence, c'est l'idole absolue qui se met dans le temple du cœur et qui nous empêche d'adorer Dieu. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin. C'est très souvent l'être humain, on cherche à se déresponsabiliser quand on fait des conneries. Alors, bien évidemment, on va mettre ça sur le compte d'un truc extérieur, mais non. C'est ça, là, ce que la Torah vient nous apprendre, c'est toi qui es responsable, Aziz. Si tu fautes. C'est
pas le diable.
C'est pas « Ah, le diable, il m'a forcé ». Non, mais toi, t'as le libre arbitre. Si tu fautes, c'est toi qui es responsable. Donc la Torah, elle vient nous apprendre la responsabilité de manière justement, comme toutes les religions, à se transformer. C'est un chemin de transformation. Se transformer, devenir meilleur.
Et alors,
moi, pasteur Jean-Christophe,
je veux rebondir là-dessus parce que effectivement, cette notion du mal introduit donc par le serpent et du péché originel, eh bien, il n'y a pas le mot péché qui apparaît dans le texte. Il apparaît beaucoup un peu plus tard quand Caïn est prêt à tuer son frère et il est marqué le péché est tapis à ta porte. Et donc on peut lire le récit donc de la transgression un petit peu différemment, plutôt comme une maturation comment dire beaucoup trop rapide que un réel péché. Cela dit, c'est saint Augustin qui a comment dire est à l'origine un petit peu de la doctrine du péché originel avec son débat avec Pelage qui lui était le Rousseau avant la lettre qui disait qu'il n'y avait pas de mal dans l'homme et que c'était introduit par la suite. Pour faire une longue histoire courte, saint Augustin a été toute sa vie obsédé par le problème du mal comme nous pouvons aussi l'être obsédés. Il était manichéen pendant 10 ans, donc une secte qui vient donc de Perse et qui reflète ce que j'ai dit tout à l'heure, cette dualité entre un Dieu bon et un Dieu méchant. Et pour expliquer le mal, parce que c'est vraiment tout le défi à la théologie, si Dieu est bon, si Dieu est tout-puissant, pourquoi le mal existe ? C'est un vrai problème théologique. Pourquoi le mal est là ? Donc, les religions répondent différemment. Même dans la Kabbale, et c'est le fameux tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu rétrécit et se fait mal à lui-même. C'est ce qui permet ce mal d'exister. Mais je souscris à ce que le rabbin a dit en disant que le mal est à l'intérieur de nous. Les bouddhistes aussi parlent de l'ego qu'il faut détruire, et c'est intéressant que les trois tentations de Jésus, on les retrouve dans le bouddhisme aussi, les trois tentations de Bouddha avant qu'il atteigne l'illumination par le dieu de la mort, Mara.
Bien, il y a beaucoup d'informations dans ce que vous venez de dire.
Et du coup, il y a un diable ou il y a un Satan ou il y en a plusieurs dans...
Il y a un principe du mal, pourtant. Moi, c'est plus comme ça que je le dirais, un principe du mal.
Nous, on considère qu'il y a le maître des démons, qui est Iblis. Et puis il y a ces suppos, ash-shayatin, qui sont les... Et dans le Coran, Dieu dit « Wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum » Il y a ces démons qui vont tourmenter, ou plutôt égarer leurs démons humains, puisqu'il y a aussi des démons humains. Dans le tout dernier verset du Coran, de Sourate An-Nas, il dit « Min al-jinnati wa-nas » qu'il y a des djinns, des shayatin djinn, qui sont de la race des djinns, et il y a des démons de la race des nas, c'est-à-dire des humains. Et que c'est, là, donc dans le Coran, dit que c'est ces gens-là qui ont vendu leur âme au diable, hein, c'est un peu ça, et qui vont être au service du mal et de l'égarement, vont être donc de ce fait les suppôts du diable, les alliés, les soldats de Shaitan, de Iblis, qui est lui leur maître suprême au-dessus de tout, de tous. Et donc il existe effectivement plusieurs démons et même des millions, des milliers de démons. Dieu parle même au pluriel, muntaha al-jumu', au pluriel des pluriels, inna shayatin ala wazn mafa'il, qui est le pluriel des pluriels. Sirat muntaha al-jumu', ce qu'on appelle en arabe.
Alors, est-ce qu'au même titre qu'il existe le catholicisme, l'athéisme, le judaïsme, il existerait le diablotisme ?
Le satanisme.
Le satanisme. Non, le diablotisme n'est pas correct ?
Non, c'est le satanisme.
C'est un peu diablotin, ça fait rigoler tout le monde.
Ça fait rigoler. Ouais. Alors que le satanisme, là, c'est, ça fait pas rire.
Bah, ça dépend, parce que en fait, certaines sectes sataniques, ce sont plutôt des gens qui sont hédonistes, qui font pas les sacrifices de bébés, enfin toutes sortes de choses qu'on leur impute, mais qui finalement sont des athées et donc essayent de vivre avec la jouissance. Voilà, c'est ça.
Enfin, ce sont des athées qui se déguisent alors.
Oui, ils peuvent se déguiser, mais bon.
Non, mais les adorateurs du diable, de Satan. Ça existe, ça aussi.
Oui, oui.
Ceux qui vont vénérer carrément.
Rabbin Gabriel. Rabbin Gabriel.
Le dicton dit qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Alors, je pense que c'était de bonne guerre entre les différents clochers des religions d'accuser l'autre de satanisme. Il se trouve que de l'eau a coulé sous les ponts et que maintenant, on a accès aux informations, on se parle. Grâce à Dieu, il y a ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Et donc, on peut s'apercevoir que l'autre, c'est pas un adorateur de Satan, c'est juste il adore le même Dieu, mais d'une autre manière. Et ça, je pense que ça fait partie de la sagesse. Si vous allez en Orient, moi je vois, par exemple, il y a eu un schisme il y a 2500 ans entre les Judéens et les Samaritains, et les Judéens accusaient les Samaritains d'être des adorateurs du diable ou des idoles, et réciproquement, on s'est réconcilié, puis on se respecte. On sait qu'on adore tous Dieu selon la Torah, mais de manière un petit peu différente. Et c'est la même chose. Les pauvres, par exemple, les yézidis, par exemple, chez les Kurdes, souvent certains Kurdes musulmans les accusaient d'être, pas trop les Kurdes, mais les non-Kurdes, en tout cas musulmans, accusaient les Kurdes yézidis d'être des adorateurs du diable, ce qui est absolument faux. Il n'y a pas plus unitaire et adorateur de l'unité absolue que les yézidis. Donc voilà, je pense qu'il faut passer une page. Le satanisme, c'est une invention occidentale des romantiques du 19e siècle, avec les romans comme Dracula, Frankenstein, voilà, on aimait ça, puis ça a donné plus tard au 20e siècle, 21e siècle, les gothiques, les choses comme ça. Mais c'est du folklore.
Mais est-ce que vous pensez que c'est uniquement une invention occidentale, ou bien parce que moi j'ai plus l'impression que c'est la voie facile à ce qu'on craint ou à ce qu'on ne connaît pas.
C'est-à-dire que c'est, Le mal fascine l'être humain autant que le bien. C'est, pourquoi est-ce qu'il y aurait des films qui montrent des horreurs et puis des choses
qui ça marche d'ailleurs beaucoup mieux, d'ailleurs, les films qui montrent le mal, en termes d'entrée.
Ça marche beaucoup plus. Et aussi, les informations à la télévision, lorsque c'est des choses qui sont horribles et choquantes,
ça fait plus d'audience.
Ouais. Et donc, il y a une sorte de fascination du mal. Mmh. Et il existe effectivement des églises qui se disent sataniques, qu'ils adorent donc Belphégor, en fait. Mais c'est là aussi, l'iconographie du diable vient du dieu Pan, le dieu grec.
C'est-à-dire que les représentations qu'on a du diable
avec des cornes et des pattes de chèvre.
Voilà. Parce que il était. Alors, ce dieu faisait peur. Il faisait peur aux gens parce qu'il était tellement horrible.
Ça fait flipper, là. Attends.
Mais effectivement, ça fait flipper. Mais c'est un petit peu comme toutes les dieux et les déesses qu'on voit au Louvre égyptienne. Il y a quand même des dieux et des déesses, des représentations qui nous fait flipper. Mais on comprend mal la religion égyptienne, qui était une religion hautement symbolique.
Donc ça vient d'où, cette représentation, cette image qui s'impose?
Mais je pense que c'est le rejet de l'Église. Je pense que c'est le rejet de l'Église et son moralisme mortifère. Voilà, donc on veut faire exactement le contraire.
Donc, Père Henri, qu'est-ce que ça vous évoque?
J'apprends beaucoup de choses, je trouve ça très intéressant. j'ai bien fait d'écouter Spicoli.
Bien, mais si ça...
Moi, je voulais revenir tout de même sur le dieu Pan, je trouve ça très chouette, voilà. Ce que dit notre bon pasteur Jean-Christophe, et de fait, je suis allé à Banias cet été en Israël.
Oui, Banias, oui.
Et c'est le lieu, justement, où il y avait le culte du dieu Pan, mais c'est pas simplement une mythologie, un texte un peu vieillot, il y a une réalité, c'est la mise à mort du bouc émissaire, c'est-à-dire que...
Ben, le bouc, justement.
Pour pacifier une société de façon tout à fait aléatoire, on va choisir quelqu'un et paf, on va le précipiter dans le vide et le mettre à mort, et on va calmer un peu la société de façon temporaire avant qu'une autre crise vienne. Ce que je décris là, c'est un peu le bouc émissaire et le réflexe mimétique que propose le philosophe René Girard. Mais c'est vrai que là, il y a une réalité, et je trouve que le Christ va justement permettre une résolution du problème autre que la désignation d'un bouc émissaire extérieur pour sa mise à mort, parce que ça ne résout rien, ça ne résout pas les crises sociales.
On avait Dionysos aussi dans le même cadre, qui est un dieu qui est dépecé aussi par les titans. Oui.
Mais du coup,
on parle de la flûte de Pan aussi. Hein.
Absolument.
On dit que le mot panique vient de là, d'ailleurs.
Ah, panique.
Ouais, voilà.
Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur cette question de diable, finalement?
Alors, on verra tout à l'heure, parce qu'on a du temps justement pour parler de ça, parce qu'on voit aujourd'hui le diable est très à la mode. Hein. Aujourd'hui, il est même à la télévision, un petit peu.
Ah oui, ils font une émission spéciale avec le diable.
Ben voilà, donc c'est vrai que le diable...
Quand on a parlé de Lucifer, j'ai pensé que vous vouliez parler de la série...
La série Lucifer, oui.
Sur Netflix de Lucifer, mais non, heureusement, c'est pas ça.
Bien, ben justement, le diable, une réalité partagée par l'ensemble des religions. On en parle ce matin jusqu'à 11h, c'est Spicuni sur Beurre FM.
Spicuni revient dans un instant. Spicuni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
En tout cas, c'est un sujet qui fait parler. On parle du diable, une réalité partagée par les religions aujourd'hui avec nos invités. Le père Henri Fautrat qui est avec nous depuis Le Mans au téléphone, le rabbin Gabriel Agaï qui est là, le pasteur Jean-Christophe Perrin, l'imam Abdelali Mamoun et Yacine Ilmi qui est là. Quand on parle du diable, on parle également d'exorcisme. Qu'est-ce que c'est que l'exorcisme ?
Alors là, le père Henri pourrait vraiment nous répondre parce que ça se pratique dans l'Église catholique.
Oui, c'est de fait, l'évêque demande à un de ses prêtres d'assumer ce ministère tout à fait particulier et lui donne tout ce dont il a besoin spirituellement pour pouvoir assumer ce ministère qui appartient uniquement à l'évêque d'ordinaire.
Il n'y en a qu'un en fait, c'est ça ?
Oui, il n'y en a qu'un par diocèse. D'accord. Il y a à peu près autant de diocèses que le département français.
Ouais. Mais ça veut dire que chaque évêque dans le diocèse peut le faire ?
Oui, chaque évêque peut le faire. Pour des questions pratiques, il délègue un de ses prêtres pour le faire.
D'accord.
Il y a une formation spéciale ou...
Il y a une formation spéciale. Et il a particulièrement aussi accès un certain nombre d'oraisons, de prières, pour demander au Seigneur de libérer les personnes, parce que là où intervient le démon, c'est toujours pour une privation de liberté.
Et ces prières sont en latin ? Ces prières sont en latin ?
Elles peuvent être en latin ou en français, c'est égal, ça s'intéresse.
Donc dans le christianisme catholique, on peut imaginer qu'une personne puisse être possédée par un démon, c'est bien ça ?
De manière consensuelle. Les cas de possession en tant que tels sont extrêmement rares, mais que des personnes soient très très ennuyées de présence diabolique dans leur vie, c'est habituel. Je sais que chez nos frères et sœurs de tradition musulmane, avec la Rokia, il y a pas mal de musulmans maintenant qui viennent voir aussi les chrétiens en disant on a des soucis. Donc il y a une préoccupation pour une plus grande liberté intérieure pour choisir le bien. C'est à ça que sert l'exorcisme.
D'accord. Rabbin Gabriel.
Alors.
Vous êtes un peu calé sur le sujet, vous.
Oui, parce que justement, j'ai été initié dans toutes les pratiques qui sont traditionnelles chez nous depuis même le roi Salomon. Pour alors, j'aime pas le mot exorciste parce que chez nous, c'est pas Satan. Comme j'ai expliqué, Satan c'est un ange. Donc, mais ce sont des épreuves que Dieu envoie souvent à travers des possessions d'esprits donc de gens défunts, de sortes de fantômes qui rentrent dans les gens, ce qu'on appelle chez nous un dibourg, c'est un esprit qui rentre dans la personne, ou bien des fois des démons. Alors surtout les démons, c'est plus dans les habitations, dans les choses comme ça. Sachant qu'un démon, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste une force qui peut être dangereuse, dans une force spirituelle. C'est comme un lion ou quelque chose comme ça. Donc un lion, c'est pas méchant par nature, c'est juste si on l'embête, ça peut devenir dangereux, donc c'est pareil. Donc on fait appel à des gens comme moi.
Alors
donc,
c'est pas de l'exorcisme, c'est quoi alors
On peut dire que c'est un exorcisme.
On peut dire ça.
Mais bon, chez nous, on appelle la réparation, nous on appelle ça un tikkun, quand on vient faire. Donc on vient réparer, on vient juste avec. On a beaucoup d'outils parce qu'il y a beaucoup de. Il faut faire un bon diagnostic de la chose.
Alors vous procédez comment alors? Ça m'intéresse.
Il faudra faire une émission dessus parce que c'est long, mais disons que. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez comme outils à votre disposition dans votre boîte à outils là?
Beaucoup d'outils. On a certains objets, on a certaines invocations, certaines incantations.
Et vous avez des psychologues aussi?
Ben, c'est-à-dire que nous, on est. Si quelqu'un a un problème psychologique, on le voit. Donc, c'est pas.
Comment vous distinguez ou différenciez
C'est beaucoup de pratique. C'est beaucoup de pratique. C'est-à-dire qu'il faut, suivre son maître qui nous initie dans ça pendant pas mal d'années, de manière à bien voir un petit peu tous les cas qui se présentent. Et,
ça fait combien, vous avez été initié combien de temps?
Moi, plus de 10 ans.
D'accord.
Plus de 10 ans à Jérusalem.
Et ça, c'est la Kabbale.
C'est une branche de la Kabbalah, oui, une branche de la Kabbalah, tout à fait. C'est tout ce qui est tikkunim à ce niveau-là, c'est une branche de la Kabbalah. Il y a des fois, dans certains, voilà, chez les très religieux, par exemple en Israël, il y a quelques rabbins qui font ça aussi, et il y en a qui le font même en direct à la radio, à chaque fois que ça fait le buzz.
Ça doit marcher, ça doit fonctionner.
Ça fait le buzz parce que les gens, ils ont ça.
Attendez, l'imam Abdelalim Mamoun et après le pasteur.
Alors, dans la position dogmatique du droit de l'aqid al-islamia, de la foi musulmane, les savants sont assez partagés sur cette question de est-ce qu'un homme peut-il être possédé par un démon ou non. Beaucoup pensent que oui, et c'est pour cela qu'il existe la ruqya et des raqis qui pratiquent la ruqya pour libérer ces personnages qui ont été envoûtés, qui ont été, on va dire, possédés par des démons. Mais moi, je fais partie de cette autre catégorie de théologiens qui pensent que non. L'homme ne peut pas être possédé par l'homme.
Jamais. Dans aucun cas.
Alors, je me réfère à quoi? D'abord, un verset qui dit wa inna kayda ash-shaytani kana da'ifa.
Ne peut pas, excusez-moi Abdelali, parce que vous avez dit ne peut pas être possédé par l'homme.
C'est-à-dire, l'homme ne peut pas être possédé par un démon.
Voilà.
Il ne peut pas être, on va dire, rentré dans son corps et prendre possession de son corps. C'est, pour nous, cette chose-là est impossible par un diable. Du moins, ça, c'est l'avis d'une partie des théologiens musulmans. Et il se base sur plusieurs versets, notamment le verset qui dit « Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa », c'est-à-dire cette capacité à nuire à l'homme est très faible, Dieu dit dans le Coran. Et quand Dieu parle de Iblis, il parle à la place d'Iblis, il dit que Iblis, quand il va promettre à Dieu de tenter d'égarer l'homme. Il dit « La urwiyannahum ajma'in » Je vais tenter de m'asseoir à côté d'eux et de réussir à les égarer, à les pousser, à s'éloigner de ton chemin droit. Je vais venir vers eux. Il ne dit pas je vais rentrer en eux. C'est-à-dire devant eux. Derrière eux. À leur droite. Et à leur gauche. Mais jamais il dira à l'intérieur d'eux. À l'intérieur d'eux. Et dans un autre verset où Dieu parle toujours à la place du diable, il dit, le diable dira dans le Coran, il dit, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Il s'adresse aux gens de l'enfer. Il dit, je n'avais pas de pouvoir sur vous. Je n'avais pas une capacité de m'accaparer de votre corps pour décider à votre place et d'agir à votre place. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Seulement parce que je vous ai invité, je vous ai séduit et vous avez répondu favorablement à mon appel. Mais ce n'est pas moi qui peux vous imposer et vous posséder pour vous faire agir à votre place.
Alors, pasteur, et après le rabbin,
je trouve ça fascinant de t'écouter parce que j'ai l'impression d'écouter un prédicateur qui est vraiment habité par...
Parce que Philippe veut me couper la parole à chaque fois.
Je ne vais pas vous couper la parole.
Je veux parler de l'avis d'Anak tout de suite. Il est là avec sa main.
Il fait juste un signe, c'est tout.
Non, mais voilà, je...
Moi, vous pouvez faire des signes.
On vous laisse parler ce qu'a
mais
vous.
Je voulais dire que le père Henri donc a parlé de ces exorcismes et qui se font assez rarement, si j'ai bien compris. Oui. Et dans la branche protestante, donc nous avons un courant qui s'appelle les évangéliques et charismatiques qui pratiquent ce genre de délivrance. Ils appellent ça la délivrance. Mmh. Et donc ils vont prier au nom de Jésus. Des fois, ils se mettent à plusieurs autour d'une personne qu'ils trouvent possédés et ils vont donc chasser le démon ou les démons, je ne sais pas trop quoi, parce que je suis d'accord avec mon imam que surtout par rapport à un croyant. On ne peut pas penser qu'un croyant soit possédé par le diable. Cela dit, il est possible qu'il y ait une force démoniaque, etc. Mais, par exemple, moi, j'ai reçu... Donc, nous, on ne fait pas d'exorcisme dans notre église, mais on fait des prières. Et j'ai reçu une dame qui pensait qu'elle connaissait des gens qui faisaient du satanisme, je ne sais pas trop quoi. Elle avait l'air d'être assez apeurée. Et je lui ai dit, de toute façon, nous, le nom le plus important, c'est celui de Jésus. Et lui va chasser tout ce qui est négatif. Et même dans la foi chrétienne, on ne nous demande pas de croire au diable, on nous demande de croire en Jésus. Voilà.
Oui.
Bien, tout ça pour qu'on puisse faire le quiz des religions. Yacine, quelle est la première question ?
On commence ?
Alors on y va.
Vas-y, donc principe du jeu, il faut répondre très rapidement. Et celui qui gagne, celui qui répond le premier, a un point. Let's go ?
Yalla.
Le Rama est très concentré.
Oh, il n'a pas besoin.
À quelle planète les Romains ont donné le nom de Lucifer ? L'étoile du matin.
Vénus.
Bravo. La planète, l'étoile du matin, la planète Vénus, lorsqu'elle se lève peu avant l'aurore.
C'était le dieu de l'amour, ou la déesse
Mars.
De l'amour.
Non, c'est Vénus, c'est
non,
bien
c'est
ça.
Vénus. La déesse de l'amour, c'est Vénus.
Mm. Oui, mais là, c'est l'étoile du matin.
Bon, sans hésitation aucune, le pasteur Perrin marque le premier point.
D'accord.
Yacine, on y va. Deuxième question.
On continue. Quel est le nom latin du diable ?
Diabolos.
Diablo,
Lucifer.
Oui, on était proche de Diabolos, mais c'est avec un
Diablos,
Diabolos,
Diabolus,
Diabolus,
Diabolus, Diabolos, c'est en grec, Diabolus,
Diabolus. Bon,
c'est pour le rabbin.
Aider le rabbin marque un point.
On continue.
On y va. Troisième question, Yacine.
Que signifie le diable en grec?
Bah, ça veut dire le diviseur. Ah oui, okay. Père Henri.
C'est le Père Henri qui marque le point.
Ah, ok, moi j'ai une autre définition aussi.
Il y a une autre définition.
Oui. Est-ce que vous pouvez la sortir ?
Vas-y, donne-la. Donne-la.
Vas-y. Quelqu'un là peut-être ? Jeter à travers ou expulser ?
Ah. Non. Mais ça, c'est faut connaître le grec.
Oui.
Il faut connaître
le diabolos est le contraire de symbolos.
Voilà, c'est-à-dire
rassembler, symbole.
Rassembler, symbole, rassemble, et diabolos ou diabolus.
Voilà, c'est ça. Diabolus.
Voilà, diabolus. C'est celui qui divise, donc.
Dia et sim. Qui sépare, c'est ça. Donc.
Dans quel livre de l'Ancien Testament le culte de Belzébuth est évoqué dans la querelle qui oppose le roi Ochozias au prophète Élie ?
Ah bah ça, c'est ça,
dans le livre des rois.
Les rois deux.
Le deuxième livre des rois, exactement.
Deuxième livre des rois.
Mais c'est le rabbin qui était un petit peu plus rapide que Père Potre.
Dans cet épisode de la vie d'Élie, Belzébuth est une divinité païenne adorée à Aigron et non un démon. Étant tombé du balcon de son palais, Ocosias, on dit Ocosias ou Ochosias ? Fait consulter Belzébuth, pour savoir s'il guérira. Mais Dieu envoie Élie pour informer celui-ci qu'il sera puni pour avoir adoré un dieu païen. Voilà. Donc ça, c'était...
Allez, une dernière pour la route ou pas, Yacine ?
Oui, on pourrait.
Alors, on y va, rapide.
On pourrait. Alors là, c'est au début du XXe siècle, quel philosophe allemand apporte un nouvel éclairage à la figure du diable et tente la première approche scientifique des cas de possession ?
C'est pas Freud.
Freud, effectivement. Ah, Freud. Bon. Alors c'est très intéressant.
Voilà. Le rabbin marque un troisième point là, facile.
Selon Freud, le diable représente en fait une figure patriarcale et incarne la peur et la défiance vis-à-vis du père, tandis que Dieu en représente l'affection et l'influence protectrice. Dans ce cadre, la religion est vue comme une création psychique permettant à l'individu d'accepter le monde qui l'entoure ainsi que sa propre condition mortelle.
Voilà. C'est l'approche freudienne.
L'approche freudienne du diable.
Ouais, c'est, on va dire psychologique, voire même psychiatrique. C'était un petit peu un psychopathe, ce gars-là aussi.
Vous en voulez une dernière ou
surtout
pas?
Surtout un gros pervers.
Non, mais de toute façon, le rabbin ne peut pas être rattrapé.
Il était juif.
Ah, okay. Bon, il était d'abord athée, très athée.
Il est juif. Il était de culture juive.
Ouais, de culture
juive et allemande même.
Ouais.
Oh, il était très en avance et puis après on s'est rendu compte que parfois il était en retard aussi. Ouais, bon, c'est un vrai sujet, Freud.
Et, ou même bien à côté de la plaque.
Voilà, bien à côté de la plaque.
Les livres qu'il écrit sur la religion sont pleins de fautes, évidemment, mais c'est aussi l'époque qui le voulait. Hein. C'est...
Bien, en tout cas, Rabbin Gabriel, vous allez pouvoir ouvrir votre magasin de poupées Chiffa très bientôt.
Ça, on attend la semaine prochaine.
J'ai dit au rabbin de me le rappeler, Philippe aussi. Pour que je ne l'oublie pas.
Voilà. Parce que sinon, on promet. Et puis,
Là, je sentais le rabbin concentré aujourd'hui. Il était là, attention.
J'en ai gagné une.
Mais il y avait beaucoup de questions en dehors de mon domaine de compétences. Grec, latin, là, c'est un petit peu.
Diabolus, diabolos.
On va finir sur une note gay quand même. On dit toujours que le diable est un petit peu partout, mais le diable n'est pas partout quand même. On a l'impression aujourd'hui.
C'est Dieu qui est partout.
Moi, je dis souvent, à la fin de mes cultes, je dis si vous faites le mal, faites le bien. Tant qu'à faire.
Ça, c'est la punchline du jour. C'est le pasteur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de Speak Uni.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.